James. Un portrait de femme. Chapitre 30. Elle retourna le lendemain à Florence, sous l'égide de son cousin, et Ralph Touchett, qui supportait mal d'ordinaire la contrainte du chemin de fer, apprécia beaucoup les heures passées dans un train qui soustrayait sa cousine à la ville choisie comme résidence temporaire par Gilbert Osmond. Ces heures servirent de prologue à une longue série de voyages. Laissant à Rome Miss Stackpole, qui projetait une excursion à Naples en compagnie de Mr. Bentling, Isabelle comptait rester à Florence jusqu'au 4 juin, date du départ de Mrs. Touchett. Elle décida de consacrer le dernier de ses 3 jours à l'exécution de sa promesse et d'aller voir Pensée Osmond. Elle faillit d'ailleurs renoncer à ce projet, par déférence pour Madame Merle. Cette dame était encore à la Casa Touchett et se préparait à quitter Florence pour un château des Monts de Toscane, résidence d'une famille noble du pays, dont la connaissance, éternelle à croire Madame Merle, faisait à Isabelle l'effet d'un privilège précieux, étant donné la magnificence d'un château à Mâchicoulis dont son amie lui avait montré des photographies. Elle raconta à cette heureuse femme que M. Osmond l'avait priée d'aller jeter un coup d'œil sur sa fille, sans ajouter qu'il lui avait aussi fait une déclaration d'amour. « Ah, comme cela se trouve !» s'écria Madame Merle. « Je me disais aussi qu'il serait gentil de faire une visite à cette petite avant mon départ. » « Nous pourrions y aller ensemble, » proposa Isabelle, avec plus de politesse que d'enthousiasme. Elle s'était représenté ce petit pèlerinage dans la solitude, et le préférait-elle. Elle était prête pourtant à sacrifier ce sentiment mystique à sa grande considération pour son amie. Madame Merle réfléchissait. « Après tout, pourquoi y monter ensemble, quand nous avons toutes deux tant à faire pendant ces dernières heures ? Soit, il m'est facile de m'y rendre seule. » « Je ne sais trop si l'on peut vous laisser ainsi aller seul chez un beau célibataire. Il a été marié, mais il y a si longtemps. » Isabelle ouvrit de grands yeux. « Qu'est-ce que cela peut faire, puisque M. Osmond est absent ?»«
On ne le sait pas. »«
Hum ? Qu'entendez-vous par là ?»«
Tout le monde, ce qui ne signifie peut-être pas grand-chose. » »«
Si vous y alliez, vous, pourquoi n'irais-je pas ?» s'indigna Isabelle.
« Parce que je suis une vieille femme et que vous êtes une belle jeune fille. »
« À supposer que ce soit vrai, vous n'avez pas fait de promesses. »«
Quel cas vous faites de vos promesses ?» fit l'autre avec une douce raillerie.
« J'en fais grand cas, en effet. Cela vous surprend ?»«
Vous avez raison, » concéda Madame Merle. « Je crois que vous le faites, en effet, par bonté pour l'enfant. »«
Je voudrais bien être bonne pour elle. »« Alors allez la voir, personne ne s'en avisera. Et dites-lui que je serais venue si vous n'y étiez pas allée. Ou plutôt non, ne lui dites rien. Cela ne l'intéresserait nullement. » Dans la voiture découverte qui suivait la route sinueuse pour la conduire à la demeure de M. Osmond, Isabelle se demandait ce qu'avait voulu dire son amie en déclarant que personne ne s'étonnerait de cette connaissance. De temps en temps, cette dame, qui préférait d'ordinaire la pleine mer aux canaux tortueux, laissait tomber une remarque ambiguë et faisait entendre une note fausse. Qu'importait à Isabelle le jugement vulgaire de gens obscurs ? Madame Merle la croyait-elle donc capable de faire une chose dont elle aurait à se cacher ? Évidemment non. Elle avait dû apprendre quelque chose que, dans l'activité des heures précédant son départ, elle n'avait pas eu le temps d'expliquer. Isabelle y reviendrait un jour. Il y avait des faits qu'elle aimait éclaircir. Elle entendit Pensée pianoter dans une pièce attenant au salon de M. Osmond où on l'avait introduite. La petite fille étudiait, et Isabelle fut heureuse de constater qu'elle s'acquittait avec zèle de ce devoir. Elle arriva presque aussitôt en lissant sa robe et fit avec une très grande courtoisie les honneurs de la maison paternelle. Isabelle resta une demi-heure et Pensée se haussa au niveau des circonstances, comme, dans une pantomime, la petite fée ailée s'élève dans les airs au bout d'un invisible fil. Elle ne bavardait pas, mais causait, et montrait pour les affaires d'Isabelle le même intérêt respectueux qu'Isabelle voulait bien prendre aux siennes. Isabelle s'émerveillait. On ne lui avait jamais présenté si directement le bouquet blanc d'une douceur cultivée. Quelle étonnante éducation cet enfant avait dû recevoir! Qu'on l'avait joliment dirigée et façonnée, tout en la laissant si simple, si naturelle, si innocente! Isabelle s'intéressait toujours au caractère et à la qualité propre des gens, aimait toujours sonder le profond mystère de la personnalité, et s'était demandé jusqu'à cette heure si cette tendre fillette n'était pas au courant de toute chose. La perfection de sa candeur n'était-elle la marque que d'une parfaite retenue ? Était-ce un masque qu'elle revêtait pour plaire à l'ami de son père, ou était-ce l'expression directe d'une nature impolluée ? L'heure qu'Isabelle passa dans les belles pièces vides et obscures,
On avait fermé les volets pour chasser la chaleur, et çà et là, par une fente, entrait la grande lumière d'été qui faisait chanter dans la pénombre chaude une touche de couleur passée ou d'or terni, et sa causerie avec la fillette de la maison tranchèrent définitivement la question dans son esprit. Pensée était bel et bien une page blanche, une pure surface lisse que l'on avait su garder intacte. Elle ne comportait ni artifice, ni rouerie, ni humeur, ni talent. Elle n'avait que des instincts exquis pour distinguer une amie, éviter un impair, prendre soin d'un vieux jouet ou d'une robe neuve. Il était touchant de voir un être si tendre, et l'on pouvait deviner en elle une victime offerte au destin. Elle n'aurait pas de volonté, ni de résistance, pas de sentiment de son importance propre. Elle était destinée à se faire mystifier, écraser. Elle n'aurait pour toute force que de savoir où et quand se raccrocher. Elle dirigeait Isabelle, qui avait demandé à faire un tour dans les autres pièces, et donnait son avis sur certaines œuvres d'art. Elle parlait de ses projets, de ses occupations, des intentions de son père. Elle ne se mettait guère en avant, tout en s'astreignant à donner toutes les informations qu'une amie si distinguée pouvait naturellement attendre. « Dites-moi, je vous prie, » demanda-t-elle, « si à Rome, papa est allé voir Madame Catherine. Il m'avait promis de le faire s'il en trouvait l'occasion. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps. Papa aime prendre son temps. Il voulait parler de mon éducation qui n'est pas encore achevée, vous le savez. Je ne vois pas ce qu'on veut me faire faire de plus, mais il paraît qu'elle est loin d'être finie. Papa m'avait dit un jour qu'il l'achèverait lui-même. » Durant les deux dernières années du couvent, les professeurs qui donnent des leçons aux grandes se font payer très cher. Papa n'est pas riche, et je regretterais bien qu'il fasse de grosses dépenses pour moi, parce que je ne crois pas que cela en vaille la peine. Je n'apprends pas assez vite et je n'ai pas de mémoire. Pour ce qu'on me raconte, j'en ai bien un peu, surtout quand il s'agit de jolies choses, mais pas pour ce qui s'apprend dans les livres. Il y avait une jeune fille qui était ma meilleure amie, et qu'on a retirée du couvent dès qu'elle a atteint 14 ans, pour lui faire, comment dit-on en anglais? Pour lui faire une dot. Cela ne se dit pas en anglais? J'espère que ce n'est pas vilain. Cela veut dire qu'on voulait économiser l'argent de son mariage. Je ne sais si c'est pour cela que papa veut faire des économies pour me marier. Cela coûte si cher de se marier, poursuivit Pensée avec un soupir. Je crois que papa pourrait faire cette économie-là. En tout cas, je suis encore trop jeune pour y penser, et je n'ai de goût pour aucun homme, pour aucun autre que lui du moins. S'il n'était pas mon papa, j'aimerais bien l'épouser lui. Il me plaît mieux d'être sa fille que la femme d'un inconnu. Il me manque beaucoup, mais pas autant que vous pourriez le croire, parce que j'ai pris l'habitude d'être loin de lui. Je l'ai surtout vu pendant les vacances. Madame Catherine me manquerait plutôt davantage, mais il ne faut pas le dire à papa. Vous ne le reverrez pas? Je le regrette bien, et il le regrettera aussi. De tous les gens qui montent ici, c'est vous que je préfère. Ce n'est pas un grand compliment, car il ne vient pas beaucoup de monde. Vous avez été bien aimable de venir aujourd'hui, de faire une si longue course pour moi, qui suis encore une enfant. Oh oui, je n'ai que des occupations d'enfant. Quand y avez-vous renoncé, aux occupations de votre enfance? Je voudrais savoir quel âge vous avez, mais je ne sais pas si cela peut se demander. Au couvent, on nous défendait de jamais demander l'âge des gens. Je n'aime pas poser des questions indiscrètes. Cela fait croire qu'on ne vous a pas donné de bons principes. Moi, pour ma part, je n'aimerais pas qu'on me prenne par surprise. Papa a laissé toutes ses instructions. Je me couche de très bonne heure. Quand le soleil s'en va de ce côté, je descends au jardin. Papa a bien défendu que je me laisse brûler la peau. Je suis toujours ravie de la vue, les montagnes sont si belles. Dans mon couvent de Rome, on ne voyait que des toits et des clochers. J'étudie 3 heures par jour. Je ne joue pas très bien. Vous jouez, vous? J'aimerais bien que vous me jouiez quelque chose. Papa déclare que je devrais entendre de bonnes musiques. Madame Merle m'a joué plusieurs fois. C'est ce qui me fait le plus plaisir quand je la vois. Elle a une grande facilité. Moi, je n'en aurai jamais. Et je n'ai pas de voix, tout juste un petit filet, comme un grincement de crayon sur une ardoise. Isabelle se plia à ce respectueux désir, ôta ses gants et s'assit au piano, tandis que Pensée, debout près d'elle, regardait ses mains blanches courir rapidement sur les touches. Quand elle eut achevé, elle embrassa l'enfant en manière d'adieu et la tint serrée contre elle en le regardant longuement. « Soyez gentille, dit-elle, donnez de la joie à votre père. C'est bien pour cela que je vis, répondit Pensée. Il n'a pas beaucoup de plaisir. C'est un homme plutôt triste. » Isabelle écouta ces paroles naïves avec un intérêt qu'elle souffrait de devoir dissimuler. C'est son orgueil qui l'y contraignait, et certains respects humains. Elle avait encore en tête bien des choses qu'elle éprouvait un grand désir de dire à Pensée sur le compte de son père, et d'autres qu'elle aurait été heureuse d'apprendre de l'enfant. Mais à peine prit-elle conscience de cette curiosité qu'elle frémit d'horreur à l'idée d'abuser de la fillette et d'exhaler dans l'air où les sens aiguisés d'Osmonde pourraient la découvrir une trace du charme qu'elle subissait. Elle était venue et n'était restée qu'une heure. Elle se leva vivement du piano, puis s'attarda encore un moment, sans lâcher la fillette dont elle considérait avec une sorte d'envie la frêle douceur. Force lui était de se l'avouer. Elle eut pris un plaisir passionné à parler de Gilbert Osmonde avec cette innocente et menue créature qui était si proche de lui. Cependant, elle ne dit pas un mot et se contenta d'embrasser une dernière fois Pensée. Elles traversèrent le vestibule pour gagner la porte de la cour. Là, la jeune maîtresse de maison s'arrêta, en jetant avec quelques regrets les yeux dans le vide. « Je ne puis vous accompagner plus loin. J'ai promis à papa de ne pas franchir cette porte. Vous avez raison de lui obéir. Il ne vous fera jamais rien faire de déraisonnable. Je lui obéirai toujours. Et quand reviendrez-vous ? Pas de longtemps, je le crains. Aussitôt que possible, j'espère. Je ne suis qu'une petite fille d'y penser, mais je vous attendrai toujours. » Et la petite silhouette demeura sous la haute porte sombre, tandis qu'Isabelle traversait la cour lumineuse et franchissait le grand portone qui laissa pénétrer un éclaboussement de lumière. Thank you.